Eh bien oui, vous venez de l'entendre. Vous venez d'entendre M. Sévigny. Donc, c'était attendu. Il se lance en politique. Isabelle Fontaine qui est en studio avec nous ce matin. Bon matin, Isabelle.
Bon matin, Steve.
On se doit de commenter, évidemment.
Il faut bien commenter
arrivé,
ça. Hein? Exactement, cette confirmation de nomination de M. Sévigny comme candidat du Parti conservateur dans Sherbrooke. Hein, il y avait quand même une centaine de personnes hier au Delta, en dedans, un 24 juin,
monde,
alors qu'il
hein?
faisait
non,
beau.
Non, il y avait du monde.
Il y avait quand même du monde. M. Scheer était là, aidant à mobiliser, mais quand même, on sent qu'il y avait une certaine effervescence, que l'organisation est probablement présente, qu'il y a un petit vent positif pour les conservateurs en ce moment. Je pense aussi que M. Reyes, M. Sévigny en a beaucoup parlé dans son entrevue, fait un bon travail au Québec puis en Estrie. On l'entend souvent, on le sent présent. Donc,
Alain Reyes, qui était un maire fort apprécié, je pense que la personnalité, beau temps, mauvais temps, le vent souffle des fois de bonne façon, des fois de moins bonne façon sur les conservateurs, mais se présente au micro puis le défend relativement.
C'est ça, la personnalité fait aussi pour quelque chose.
Oh, oui.
Donc, Andrew Scheer, qui était présent hier à Sherbrooke, ça montre un peu l'importance de la circonscription pour les conservateurs. Il faut dire aussi qu'il y avait, j'ai entendu dire qu'il y avait quelques députés, dont Marc Deneau, on m'a dit entre les branches qui était là, le maire de Danville aussi, Pierre-Hugues Boisvenu, je pense aussi, s'est déplacé pour cette confirmation de candidature. Donc, M. Sévigny qui a parlé de ses priorités, qui a parlé un peu de l'agenda conservateur. Moi, ce que j'ai aimé du discours de M. Scheer et du discours de M. Sévigny, c'est qu'on parle beaucoup des Canadiens, mais des Québécois.
Mm-hmm.
Les Québécois, le Québec dans le Canada, qu'est-ce que les Québécois veulent. Donc, on sent là, qu'on essaie de tirer profit du nationalisme qui se réinstalle au Québec, probablement aussi du positionnement de la CAQ à Québec. On parle des engagements de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, de développement économique basé sur l'économie verte, mais on parle aussi de rapport d'impôt unique.
Le rapport d'impôt unique, c'est sûr que ça a une résonance très forte chez les Québécois. Là. Ça, c'est un point sur lequel ils peuvent tabler assurément.
Assurément. Legault en avait fait une de ses demandes dès son arrivée comme premier ministre du Québec auprès du gouvernement fédéral. Il n'y a pas eu nécessairement de suite. Donc, on sent justement dans le discours, Andrew Scheer qui a fait un discours entièrement en français. Hein, donc, on sent que ça s'améliore aussi, que c'est important pour lui. Je pense que c'est important pour Sherbrooke, mais tu sais, je rappellerais aussi que c'est le fait que Sherbrooke soit une circonscription aussi convoitée, qu'on met autant d'emphase sur la présence du chef, l'annonce du candidat, tout ça. On ne sait vraiment pas la direction que ça va prendre à la prochaine élection.
Est-ce qu'on a l'impression, moi c'est ce que je me suis demandé, on s'est dit peut-être que ça fera boule de neige. Tu sais, c'est d'essayer d'aller chercher la Ville-Reine pour se dire ça va rayonner autour. Compton-Stanstead, entre toi et moi, je pense que Mme Bibeau doit dormir sur ses deux oreilles. On n'a pas l'impression, même si ça souffle fort, on n'a peut-être pas l'impression que c'est le comté qui sera prenable pour d'autres partis. Là.
Ben, en fait, Sherbrooke, l'affaire, c'est qu'on ne sait pas de quel côté ça va tomber. Puis là, on est vraiment dans la mathématique. T'sais, ce que les partis fédéraux veulent, c'est les conservateurs et le Parti libéral, c'est aller chercher les circonscriptions qui leur permettront d'avoir soit de maintenir la majorité pour les libéraux, soit de prendre le pouvoir pour les conservateurs.
Mm-hmm.
Donc, ce qui est intéressant dans Sherbrooke, c'est que c'est une circonscription particulière où tu as un député du NPD, Pierre-Luc Dussault, qui a survécu au retour de la vague en 2015.
Et que je parierais qu'il y a encore un très haut taux de satisfaction à son égard.
Je pense aussi.
Ce qui va probablement le couler, c'est le parti.
Il avait déjà fait un score beaucoup plus intéressant que son parti au niveau québécois la dernière fois. Mais tu sais, c'est une circonscription particulière aussi. Hein. Ça a été un château fort du Bloc entre 1998 et 2011, avant la vague du NPD. Serge Cardin, on pensait jamais qu'il allait perdre en 2011. C'était un château fort, il y avait des majorités écrasantes, même contre des candidats libéraux vedettes.
Et père contre un député ado, en guillemets. Là. T'sais, écoute, Pierre-Luc, qui était le plus jeune à l'époque, débarqué là, personne ne le connaissait.
Exactement. Mais bon, mettons que la vague a été particulièrement forte. T'sais. Puis avant ça, c'était aussi une circonscription qui appartenait aux conservateurs et que Jean Charest a réussi à garder alors qu'il y avait juste deux députés conservateurs.
Par contre,
on s'entend que c'est une
Mais je lèverais le point sur le Parti conservateur à l'époque de Charest. Il était différent, un, et est-ce que c'était l'effet Jean Charest? T'sais, souvent, on dit que le candidat a une incidence, entre guillemets, limitée sur le comté. Il y a un impact, mais ça demeure quand même le parti. Mais dans le cas de Jean Charest...
Dans le cas de Jean Charest, visiblement, il y avait un impact positif. Là. Il restait deux comtés conservateurs à l'époque, dont le sien. Puis après ça, il a réussi à être premier ministre du Québec puis député de Sherbrooke au provincial pendant plusieurs années.
Parce que peu importe le parti, il a été élu à toutes les sauces, M. Charest. Là.
Absolument. Puis après ça, tu regardes les sondages à ce moment-ci, où là, si tu regardes Québec 125, là, maintenant... Ça s'appelle le Canada 338.
Oui.
C'est le même,
projectionniste
qui fait les projections. Lui, il met le Parti libéral loin devant, mais après ça, il met les conservateurs et le Bloc nez à nez. Donc, je pense que tout dépendant comment ira l'élection au niveau québécois puis au niveau fédéral, les trois partis, le Bloc, les conservateurs et les libéraux peuvent considérer Sherbrooke comme une circonscription prenable puis dans la liste des circonscriptions qu'ils peuvent viser. Donc, on va voir qui sera le candidat libéral, qui sera le candidat du Bloc. Avec beaucoup d'intérêt, on verra qui se pointera là, mais ils ont tous,
Chez les libéraux, on a des candidats sur la table. Là. Chez le Bloc, c'est encore un peu nébuleux, disons.
Chez le Bloc, on attend toujours.
je te sens aux prises avec un problème.
J'entendais Luc dire ce matin, oui, les libéraux ont pris du retard dans la nomination de candidats, mais rappelons-nous que les libéraux, eux, font le choix d'une investiture ouverte hein, à peu près dans toutes les circonscriptions. On le sait qu'à Sherbrooke, il y a quelques candidats. Donc, est-ce que le parti va déclencher l'investiture rapidement? Est-ce qu'il y aura plusieurs candidats? Qui sortira gagnant de cette investiture? Des fois, ça nous réserve des surprises.
Finalement, l'ancien ministre ne semble pas se diriger là.
Ça peut aussi laisser des marques sur une organisation. Donc, on verra.
Monsieur Sévigny est à l'écoute présentement. Là. Pour les candidats qui vont s'opposer à lui, tu vois quoi comme problématique chez les conservateurs ou tu sais, les points à attaquer, entre guillemets?
Ben, moi, je pense que tu l'as dit tantôt, l'espèce de pensée du Parti de l'Ouest, puis c'est ce que les conservateurs essaient de contrer.
D'où la conférence de presse en français, d'où le Québec, Québec, Québec.
Absolument. Hein? Ensuite de ça, toute la question environnementale. Si les partis ramènent ça sur la table, c'est ce que va essayer de faire le Bloc, assurément. La question du pipeline, de l'exploitation du pétrole dans l'Ouest canadien. Donc, comment est-ce qu'on contrecarre ce discours-là?
Les libéraux vont arriver avec ça aussi, mais ils ont une position, disons, plus fragile.
Ben, les libéraux doivent défendre leur propre bilan, tu sais, alors que le Bloc n'a pas à le défendre. On peut juste faire la promotion de la position du Québec dans le Canada à cet égard-là.
Le NPD a beau jeu là-dessus aussi, par contre?
Mais qui écoute encore le NPD,
c'est un peu ça la question. C'est un peu ça le problème. Merci beaucoup, Isabelle.
Merci, à demain.
On se reparlera demain, Isabelle Fontaine et son commentaire. Tous les jours, à peu près à 7h-ci.